Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Dans un contexte mondial où les enjeux climatiques, économiques et sociaux se croisent de manière inextricable, l'Afrique se positionne non seulement comme un terrain de défi, mais surtout comme un vivier de solutions. Alors que le continent se trouve à un carrefour décisif de son développement, la Semaine de l'Afrique des solutions et durabilité s'impose comme une plateforme incontournable pour repenser le futur africain et du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
La manière dont nous produisons, consommons et gaspillons les aliments a un impact direct sur l'environnement. L'agriculture intensive, la déforestation pour l'élevage ou la monoculture, ainsi que le gaspillage alimentaire, sont des responsables d'émissions de gaz à effet de serre, de pertes de biodiversité et d'épuisement des ressources naturelles. Promouvoir donc une alimentation plus durable, riche en produits locaux, de saison d'origine végétale, permet de réduire cette empreinte écologique. Et pour en savoir plus, mesdames et messieurs, votre émission Durabilité reçoit M. Toto Tchegoun Pierre G., précieux également, coordonnateur intersectoriel du projet Nutrition Santé Watch, genre et développement communautaire du Bénin. Bonjour et merci de répondre à notre question et notre invitation.
Merci beaucoup.
Alors, Monsieur Toto, comment les changements climatiques impactent-ils actuellement la sécurité alimentaire et la nutrition au Bénin et plus largement en Afrique de l'Ouest?
C'est une très belle question que je me ferai le plaisir de répondre. Et la sécurité alimentaire est mise en branle par les phénomènes néfastes climatiques dans le monde, et particulièrement dans les pays du Sud. Notamment en Afrique de l'Ouest, précisément au Bénin. Et cela touche plus particulièrement les petits producteurs agricoles qui vivent dans les milieux ruraux, à travers divers fléaux que sont la non-maîtrise de calendrier pluvial, les pluies ne viennent plus à temps, les phénomènes, la montée des eaux et divers phénomènes liés au climat. Maintenant, revenons aux petits producteurs parce que ils sont directement en lien avec la sécurité alimentaire et la nutrition. Quand ils produisent, les récoltes ne sont plus la productivité, le rendement n'est plus au rendez-vous du fait du manque d'eau, de la mauvaise des mauvaises pratiques utilisées à travers l'excès d'utilisation d'engrais, et cela agit sur la sécurité alimentaire et la nutrition au Bénin.
Et dans cette même dynamique aujourd'hui, par rapport à cela, quelles pratiques agricoles durables ou innovations également avez-vous observées ou mises en place dans votre projet qui permet donc de concilier productivité, résilience climatique et nutrition?
Le projet que j'ai l'honneur de piloter a pensé d'abord, dans un premier temps, à valoriser les bonnes pratiques endogènes de résilience et d'adaptation au changement climatique, et qui sont déjà éprouvées par les producteurs eux-mêmes. Et on a pris l'approche de la FAO en ce qui concerne les champs et camps de producteurs, où cette approche consiste à réunir un groupe de 25 personnes en tenant compte du genre, des femmes, des jeunes, et de les former sur une petite portion de terre, sur différentes pratiques éprouvées, de sorte à les faire et tirer la conclusion à la fin que les pratiques dites agroécologiques les sont plus bénéfiques. En ce sens que ils n'ont plus à payer beaucoup d'engrais parce qu'il existe des moyens endogènes pour rendre toujours fertile la terre à travers les plantes améliorantes, par exemple le moukounan, la chenomène et le poids d'engrol. Moi, j'ai eu particulièrement la chance de suivre les producteurs de manioc où, sur quatre différentes parcelles, nous avons mis en place trois différentes technologies et la dernière parcelle était destinée à la partie paysanne. À la fin de la récolte, les producteurs ont touché du doigt le fruit des différentes technologies à travers la récolte. Ils ont comparé les différentes parcelles et se sont rendus compte que nos pratiques étaient meilleures à la leur. Cela les a permis maintenant de choisir une technologie et de répliquer dans leurs différents champs. Il y a aussi le modèle agroforestier que nous avons promis dans le projet qui vise notamment à produire des palmiers à huile avec des cultures annuelles et des arbres fruitiers sur 60 états, notamment dans la commune de Togbo et dans deux communes. Et les cibles sont identifiées.
Merci. Et dans cette même dynamique aujourd'hui, par rapport à cela aussi, par rapport également à ce que vous venez de développer, peut-on aujourd'hui aussi, dans la même dynamique de votre projet que vous avez donc mis en place, selon vous, quels sont les leviers prioritaires pour transformer les systèmes alimentaires africains afin qu'ils soient à la fois résilients au climat et nutritionnellement adéquats également?
Merci pour la question. Et pour moi, les différents chocs mondiaux récents ont vraiment mis en exergue toute la fragilité des systèmes alimentaires, notamment dans les pays du Sud. Il s'agit maintenant de devenir dépendant par rapport à l'accès aux intrants de qualité.
Mmh.
La politique gouvernementale doit être orientée vers le consommant local. Il doit avoir une politique de sensibilisation de la population parce que le regard de nos populations sont plus orientés vers les produits extérieurs du fait qu'ils pensent, et à tort, que c'est les meilleurs produits. Ça, c'est le premier pilier à avoir. C'est éviter les inégalités sociétaux, parce que ça crée et ça sous-tend des crimes tels que l'extrémisme violent. Et vous n'êtes pas sans savoir que récemment, en Afrique de l'Ouest, il y a une hausse de ces conflits dans la sous-région Mali, Burkina et même le Bénin. Donc, ces différentes inégalités doivent être revues. Mais le plus grand défi, selon moi, c'est la formation de nos producteurs, la formation des formateurs et l'autonomisation des femmes.
Et l'autonomisation des femmes, aujourd'hui un projet ambitieux dont l'optique toujours de pouvoir permettre d'avoir une agriculture durable, mais aussi qui répond aux réalités de notre société d'aujourd'hui. Vous en parliez donc également tout de suite. Ce qu'il faut aussi noter, qui nous semble aussi assez important par rapport à l'orientation que vous avez prise de cela, quel rôle les savoirs locaux et les cultures alimentaires traditionnelles peuvent-ils jouer dans cette transition vers des systèmes alimentaires durables face aux défis climatiques surtout?
Je pense qu'elle joue un rôle important et capital. La valorisation de nos produits alimentaires et des habitudes alimentaires locales, et je pense que c'est le pilier sur lequel nous devons nous baser pour rendre nos systèmes alimentaires durables. Et il y a beaucoup de produits locaux dans nos différentes régions, ne parle pas seulement du Bénin, qui sont méconnus du public, mais qui sont riches nutritionnellement et socialement adaptés et accessibles économiquement.
Accessibles économiquement plutôt. Donc, dans cette optique, quand vous parlez d'accessibilité, on comprend aussi que c'est un point assez important vers cette politique qui tend bien évidemment à une culture alimentaire traditionnelle bien adéquate. Aujourd'hui, comment les politiques publiques actuelles au Bénin, votre pays, prennent-elles en compte le lien entre climat et alimentation? Que recommanderiez-vous également pour renforcer cette approche?
Je pense que le gouvernement de la rupture a bien compris le défi qui était le nôtre, en ce sens que différentes stratégies liées à la promotion de l'agroécologie et la production durable ont été mises en place par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et le défi qui reste, c'est l'extension et l'applicabilité sur le terrain de ces différentes politiques. Parce que le conseil agricole, tel que nous le connaissons, a changé vraiment de structure. Il faut l'implication des ONG, il faut beaucoup de ressources pour former les agents de vulgarisation. Il faut aussi une politique pour ne plus être dépendant du climat.
Mmh.
Il y a beaucoup de ressources, mais je pense que à l'heure actuelle, il faut miser sur cela à travers les nouvelles technologies et l'agriculture de précision. Ça semble un peu rêveur, mais je pense que si l'on concilie ces nouvelles innovations avec les pratiques endogènes, nous aurons un très bon résultat.
Nous aurons un très bon résultat, un résultat également qui demande aujourd'hui par rapport aux partenariats. Exemple, quels sont les partenariats entre chercheurs agriculture, ONG et gouvernement aussi, qui, selon vous, toujours, est essentiel pour faire émerger des solutions concrètes et intégrées aux enjeux croisés du climat et de l'alimentation?
Le projet PRIMA dont j'ai l'honneur d'être un maillon a bien pensé en intégrant la recherche à nos différentes pratiques, de telle sorte que les innovations promues par nos producteurs locaux sont évaluées par les chercheurs, validées et améliorées. Je pense qu'on doit rester dans cette dynamique pour beaucoup plus de solutions efficaces face à la crise qu'est le changement climatique et la dépendance liée aux produits extérieurs.
Liée aux produits extérieurs.
Aussi contre la malnutrition dans nos contrées.
Une politique donc aujourd'hui qui vise à mettre en place une alimentation durable pour répondre aujourd'hui aux réalités climatiques, mais aussi aux réalités socio-économiques et aussi écologiques. Et pour en parler plutôt, nous avons reçu M. Toto Tchegoun Pierre-Gé Précieux. Merci encore à vous, M. Toto. Je précise que vous êtes coordonnateur intersectoriel du projet Nutrition Santé Watch Genre et Développement Communautaire au niveau du Bénin.
Merci beaucoup à vous de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet crucial pour le développement de l'Afrique et du Bénin en particulier.
Et merci également à vous, chers amis auditeurs, de la durabilité de votre confiance renouvelée à cette émission sur la durabilité. Merci encore. Rendez-vous pris pour un prochain numéro. Au plaisir.